Freddy et Tan, il y a deux points qui nous intéressent particulièrement ce matin, qui nous aimerions avoir vos commentaires. C'est le premier, c'est celui de la visite des 47 chefs d'État en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la délivrance d'Auschwitz. Mais ce qui vous a, vous, particulièrement heurté, ce sont les paroles du président français. Pourquoi ?
Écoutez, tout d'abord, c'est un événement historique, on peut dire, parce que pour la première fois, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont débarqué et ont participé à ce forum très important, 75 ans après... après ce qui s'est passé donc à Auschwitz, après que les Russes ont ouvert les portes, donc je dirais les portes de la mort. Donc dans ce sens-là, tous ont focalisé sur le souvenir et sur la mémoire. Pourtant, le président français est le seul, je dis bien le seul, à aller à Ramallah. Il y a eu, c'est vrai, Poutine et le prince Charles se sont allés à Bethléem. Et donc c'est tout à fait différent. Deuxièmement, le président français aussi a bousculé, si vous voulez, l'agenda et la visite, puisqu'il a, je dirais, est allé à Jérusalem-Est et il a repris, je dirais, les mêmes pas que Jacques Chirac. On avait déjà, bien avant la visite, dit et écrit même que cela pourrait créer des troubles et créer effectivement une certaine mésentente entre le président et les services de sécurité. Et dans ce sens-là, je crois qu'on ne peut pas, évidemment, dicter à l'ordre du jour tout le programme israélien et focaliser sur des questions politiques et non pas sur la mémoire de la Shoah. En plus, quand il était à Jérusalem, le président a prononcé une phrase en disant qu'effectivement, l'église Sainte-Anne est un territoire français. Il n'existe pas de territoire qui appartient à la France en Israël. Donc les lieux sacrés ne sont que des propriétés privées, non souveraines d'ailleurs sur le plan international. Donc là, il faut dire qu'il y a eu certaines maladresses, et je le regrette beaucoup parce que son discours devant la communauté française et aussi son discours devant les chefs d'État à Yad Vashem étaient des discours remarquables et qu'il faudrait évidemment appliquer par des actes.
Bon, écoutez, Freddy. On va peut-être avancer un petit peu dans l'histoire. Aujourd'hui est un jour important. Le président Trump doit recevoir d'un côté Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et son premier opposant, Benny Gantz, à propos du deal du siècle, de l'affaire du siècle, comme on dit ici. Est-ce que cela apportera une chance d'avoir la paix avec les Palestiniens, nous allons avancer. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? On a une chance d'avancer ?
Écoutez, tout d'abord, triste de constater et de voir bizarrement, je dirais, deux leaders israéliens, un premier ministre en exercice d'un gouvernement transitoire, Netanyahou, et le chef du plus grand parti politique et peut-être futur premier ministre, Benny Gantz, donc séparément rencontrer à la Maison Blanche le président des États-Unis, surtout quand il s'agit d'un plan de paix pour l'avenir de l'État d'Israël, pour tout le Proche-Orient et surtout aussi pour les générations futures. Donc la méfiance totale existe et règne entre les deux hommes et entre les partis politiques, entre gauche et droite, mais surtout aussi sur des questions personnelles et d'égo. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire de l'État d'Israël. Et donc ce plan, d'abord, il faut le dire, n'a pas été encore publié officiellement. Il y a eu des fuites. Mais je dirais que ce plan a été étudié minutieusement durant plus de 3 ans, avec tous les acteurs de la région. Donc on ne peut pas non plus aussi reprocher qu'il s'agit d'un plan élaboré pour faire plaisir à Netanyahou personnellement. Et puis, il y a aussi, si tous les acteurs ont été consultés, est-ce que vous avez entendu, à part les Palestiniens, un pays arabe, un dirigeant du pays arabe, condamner à l'avance ce plan? Non. Et le mutisme est flagrant et important et impressionnant, je dirais. Parce que les pays arabes modérés sunnites savent très bien que seuls les États-Unis sont capables non seulement d'investir aussi, parce qu'il y a ici une affaire de 50 milliards de dollars à investir pour régler une fois pour toutes les problèmes socio-économiques et le chômage et les problèmes des Palestiniens. Donc il s'agit là d'une opportunité inouïe qu'on n'a jamais vue depuis le partage de la Palestine depuis 1948.
Oui, justement, on se rend compte que les Palestiniens qui avaient tout fait pour que leur cause soit la cause du siècle arabe se rendent compte que ça leur échappe. D'ailleurs, ne disent-ils pas que c'est le complot du siècle et non pas l'affaire du siècle? Alors, ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils n'en sont plus au centre du monde.
Évidemment, parce qu'il y a un autre problème qui préoccupe les pays arabes, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, et évidemment les pays du Golfe. C'est la menace iranienne. La menace iranienne est d'abord pour Israël existentielle, parce que l'Iran poursuit son programme nucléaire, d'avoir la bombe atomique d'ici un an et demi. Donc cela est grave et cela menace, comme on le sait, on l'a vu, l'Arabie saoudite, puisque comme l'Iran tient en tenaille et essaye d'exporter non seulement la révolution islamique, mais aussi essayer d'avoir cette hégémonie, je dirais, depuis le Maroc jusqu'en Irak et évidemment aussi au Yémen, comme vous le savez, et la guerre se poursuit là-bas. Et la menace est surtout vis-à-vis donc de l'Arabie saoudite. Et là donc, il faut dire aussi que les Palestiniens eux-mêmes sont lassés de voir à chaque fois un président palestinien de 85 ans, vieux non seulement, mais aussi malade, et qui n'arrive pas et à chaque fois refuse. Ça me rappelle depuis 1948, donc ce plan de partage où ils ont refusé tout compromis. Et aujourd'hui encore, les Palestiniens refusent. Mais ce qui est aussi, et ils menacent aussi d'annuler les accords d'Oslo. Mais les accords d'Oslo, et effectivement, le problème palestinien est lié à Israël et l'économie israélienne. Vous savez qu'il y a, je dirais, un boom économique en Cisjordanie et il y a une amélioration donc de la Cisjordanie des Palestiniens par rapport à Gaza, qui Gaza continue à essayer par tous les moyens d'envoyer des tirs de roquettes et ne reconnaît pas donc l'existence même de l'État d'Israël. Et donc l'économie palestinienne dépend, Israël c'est un ballon d'oxygène, non seulement pour les travailleurs palestiniens, mais comme vous le savez, même le shekel et en Cisjordanie, il n'y a pas une autre monnaie. Donc tout cela prouve par là qu'il y a à chaque fois un refus total de la part des Palestiniens, non seulement de reconnaître l'existence de l'État juif, mais aussi de revenir à ce qu'on appelle à la charte palestinienne, c'est-à-dire non seulement les frontières, les lignes d'armistice de 1949, mais aussi de reprendre certains territoires et d'amener évidemment ce qu'on appelle la résolution 94, qui veut dire le retour des réfugiés. Alors dans ce sens-là, il est important aussi que Israël, à chaque fois, puisqu'il y a un refus depuis 73 ans, depuis la création de l'État d'Israël, il est temps que les Israéliens décident aussi ceux qui les revendications des Israéliens, c'est-à-dire quelles sont nos frontières défendables, comment nous voyons nous-mêmes l'avenir de l'État d'Israël. Et ce plan de Trump nous donne l'opportunité de le faire et de l'appliquer. Peut-être pas tout de suite, parce que il s'agit d'une feuille de route. Et donc, il est important de savoir si Benjamin Netanyahu va appliquer une partie, je dis bien une partie, donc de ce plan avant les élections ou après, s'il sera évidemment réélu. Et donc, c'est assez complexe et assez difficile. Mais imaginez, si ce n'était pas Trump et ce n'était pas Netanyahu, si c'était Obama et Shimon Peres, et que les Américains auraient proposé un plan. Oui, on aurait couru vers la Maison Blanche pour accepter ce plan. Mais aujourd'hui, les temps ont évolué. Et évidemment, il y a deux personnes qui, ce tandem, Benjamin Netanyahu et Trump, est mal vu, non seulement dans la presse internationale, mais aussi en Israël, et surtout l'affaire de Netanyahu avec sa mise en examen, qui Gantz se précipite, après avoir rencontré Trump, de revenir à la Knesset, et de, évidemment, de juger, entre guillemets, Benjamin Netanyahu.
Très bien, Frédéric Ethan, je vous remercie, mes auditeurs vous remercient. On va suivre de très près cette visite israélienne aux États-Unis. Peut-être que les choses vont bouger. À très bientôt, Frédéric.
À très bientôt.